Je sais pas s'il y en a qui trouvent qu'on parle trop souvent du Saint-Esprit. Moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez. On devrait en parler à toutes les réunions. Savez-vous que c'est un mystère caché? C'est un mystère caché. Autant le salut par la foi, c'est un mystère caché. Les œuvres des puissances des ténèbres, là, comment est-ce que le diable naît le monde depuis le début avec Adam et Ève, c'est un mystère caché. Ça a tout été révélé quand Jésus-Christ est venu avec son onction de puissance pour chasser les démons. C'est là que les manifestations démoniaques se faisaient. Avant, tout se passait incognito. Puis les personnes qui étaient touchées par le Saint-Esprit, là, t'es content sur tes mains. Je sais même pas si avec deux mains que tu n'as dans la tête de trou, c'est un prophète ici avec quelques personnes autour, puis il pouvait en avoir un petit groupe, une petite école de prophètes, mais dans toute la multitude de la terre, c'était minime le pourcentage de gens qui marchaient remplis de l'Esprit dans l'Ancien Testament. Puis c'est pour ça que Jésus, le Saint-Esprit, pas encore vraiment distribué, puis il dit là, je suis venu pour faire cette distribution-là. C'est ça qui était le but. Puis il faut comprendre que tout est là-dedans, dans la présence du Saint-Esprit. C'est lui qui fait l'œuvre à travers de nous. Puis si on arrête d'en parler, qui va en parler? Qui va prendre la relève pour parler de lui, puis pour que le monde le sache? Parce que Jésus a dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit, puis vous allez le connaître parce qu'il va être en vous. Tandis qu'il dit, du monde, ils peuvent pas le connaître, puis ils le voient pas, puis ils savent pas qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est aux enfants de Dieu de révéler le Saint-Esprit. Puis on pose la question, as-tu reçu le Saint-Esprit? Ça se pose, cette question-là. Pierre, Paul l'a posé la question à des gens qui disaient qu'ils avaient la foi. Puis si les gens l'ont pas reçu, ben, il faut qu'ils naissent de nouveau, sinon ils sont même pas encore entrés dans leur royaume. C'est important que les gens réalisent qu'il faut qu'ils naissent de nouveau puis qu'ils reçoivent l'Esprit. Puis c'est important qu'on en parle, puis pas juste parler du Saint-Esprit, mais parler aussi de toute son action à travers les croyants. Parce qu'à la Pentecôte, là, c'était puissant qu'est-ce qui s'est passé là, mais ça se reproduit encore dans les temps, ça. Des gens remplis, revêtus de la puissance, avec les dons spirituels. On est 2000 ans plus tard, ça se produit encore. Dieu, il baptise du Saint-Esprit des personnes. Moi, je l'ai été, il y en a d'autres qui l'ont été. Puis Dieu veut, il veut que la promesse soit pas juste pour moi. Il dit pour vous, pour vos enfants, puis en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Fait qu'on est comme des messagers pour aller parler de « Vous pouvez recevoir le Saint-Esprit, puis en être équipé, puis il va faire un œuvre extraordinaire dans votre vie. Vous allez vivre des expériences extraordinaires avec le Dieu vivant, invisible, mais il est là. On entend son bruit, puis on l'entend où ce qui passe, quand il passe le Saint-Esprit. Ça a été puissant dans le temps des apôtres, parce que là, c'était comme la révélation. C'était en fait un état de choc, parce que là, il y avait des multitudes qui l'ont reçu. Puis ça a été un bouleversement dans la puissance des ténèbres qui ont été mis à jour. Quand Jésus a envoyé 70, là, hein, c'était puissant. Il dit, voyait Satan tomber du ciel. Il piquait une débarque. Puis les 70 travaillaient à répandre la bonne nouvelle, puis à chasser les démons. Puis il était heureux de voir que les démons étaient soumis dans son nom. Mais ça, c'est la puissance de Dieu, frères et sœurs, puis c'est encore pour aujourd'hui. C'est de l'actualité. Puis il faut pas se lasser d'en parler, même si notre corps, ça y tente pas. Même si on se dit, je le vis pas, je suis dans un désert, je le vis pas. Mais c'est dans la louange, dans la prière, dans la parole de Dieu, qu'on se ressource dans cette présence-là, dans la présence de Dieu. On confesse notre vie, on confesse nos péchés, on demande pardon, le sang de Jésus nous purifie, on demande de nous remplir du Saint-Esprit, puis le Seigneur dit, à combien plus forte raison le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Ça fait partie de sa volonté de vouloir le distribuer. Fait qu'on peut le recevoir aujourd'hui, puis le recevoir encore en plus puissant demain, puis c'est un renouvellement tous les jours. Puis non seulement il veut le faire, mais il va le faire, amen. On va le voir ici à Saint-Rémy, puis il va y avoir des multitudes touchées par la puissance du Saint-Esprit. C'est déjà commencé. C'est déjà commencé. On continue dans la même lignée de pensée sur les âmes et la puissance de Dieu. J'ai parlé du baptême du Saint-Esprit deux semaines. Aujourd'hui, on va voir un peu plus sur ces actions que le Saint-Esprit va faire, ces dons spirituels. Quand on est arrivé à Christ, là, il s'est passé bien des choses. On a été pardonné de nos péchés. On a reçu le Saint-Esprit. On est né de nouveau. On est changé de royaume. On était dans le royaume des ténèbres. On est rendu dans le royaume de Dieu, dans le royaume de la lumière. On commence à marcher dans un renouvellement que le Saint-Esprit veut faire. Il veut changer nos pensées, toutes les forteresses, les faux raisonnements qu'on a dans la tête. Il veut nous renverser pour renouveler notre intelligence, pour qu'on pense comme Jésus, pour qu'on puisse savoir c'est quoi la volonté de Dieu. Il fait le ménage dans notre corps, puis dans notre esprit, puis il nous le dit même dans 2 Corinthiens au chapitre 7. Vu qu'on a des promesses comme ça, il dit « Purifions-nous, bien-aimés, de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en accomplissant la sanctification. » Faut continuer ce travail-là en partenariat avec le Saint-Esprit. L'Esprit Saint veut nous purifier, il veut faire le ménage. Sans lui, on peut pas l'atteindre. Mais en plus de vouloir faire le ménage, il veut nous équiper. T'envoies pas des soldats en guerre sans leur donner tout ce qui est nécessaire pour combattre. Sinon, c'est une mission suicide. Dieu veut pas faire de ses enfants une mission suicide. Il veut pas que tous ses enfants se fassent massacrer sur le champ de bataille, puis le diable qui leur rentre dedans, puis ils ont jamais aucune victoire. Non, toutes les âmes, tout ce qui est nécessaire à la vie, à la piété, est déjà donné au moyen de la connaissance de son Fils. Tout ce qu'on reçoit en Jésus-Christ, c'est déjà l'équipement. Puis dans le Saint-Esprit qu'on reçoit à cause de Jésus-Christ. Il nous équipe parce que le royaume de Dieu, ça consiste pas juste en parole seulement, mais en puissance. Ça, c'est écrit dans 1 Corinthiens 4, 20. Il y a un verset dans l'Ancien qui dit « Ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. » Il veut que tu marches dans la puissance. Puis il dit même « Sors pas de chez vous avant de l'avoir reçu, cette puissance-là. » C'est ce qu'il a dit aux premiers disciples. Nous devons pas penser que c'est juste une option, puis on n'est pas obligé, puis on peut négliger de le faire, puis que c'est pas grave, qu'il arrivera rien. Oui, c'est excessivement grave si on oublie d'être rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'on marche dans notre chair. T'as pas le choix. Parce qu'il dit que la vie de l'Esprit puis de la vie de ta chair, c'est complètement à l'opposé. C'est ça que ça dit dans la parole. Si tu veux vivre en contact, en communion, dans la révélation, puis dans la manifestation de la présence de Dieu, faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Faut que tu le cherches à tous les jours.
Amen.
Amen. Faut le chercher à tous les jours. Faut pas négliger ça, c'est trop grave si on ne va pas le chercher. Jésus n'a pas besoin des enveloppes ou des vases dans son corps, là, des vases ou des membres vides. Il veut voir son peuple de Dieu rempli, revêtu, équipé, allant dans le combat, puis remportant les victoires. Puis dans le chant qu'on a chanté tantôt, « Ne laisse pas ton ennemi te ravir tes promesses. » Faut pas le laisser faire, c'est pour nous. Cette promesse est pour nous, pour nos enfants, et en aussi grand nombre que le Seigneur va les appeler. Une fois que tu l'as reçu, l'équipement de puissance là, que je veux parler aujourd'hui, c'est sur. On va vous donner une brève description des dons spirituels, des diverses manières que le Saint-Esprit veut se manifester dans notre vie. C'était pas connu avant que Jésus vienne. Quand Jésus est venu, Jésus a marché dans les dons. Mais après ça, à la Pentecôte, c'est les disciples. Même les disciples ont marché aussi avant, là, mais ils marchaient dans l'autorité du nom de Jésus. Mais après la Pentecôte, là, c'était répandu à tout le monde. Tout le monde pouvait marcher dans la puissance. 1 Corinthiens 12, 4. On va le lire rapidement. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, un autre la foi, par le même Esprit, un autre le don des guérisons, par le même Esprit, un autre le don d'opérer des miracles, un autre la prophétie, un autre le discernement des esprits, un autre la diversité des langues, un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Comme il le veut. On voit dans ce passage-là, la première chose qu'on remarque au début, là, il y a diversité de dons, puis là, il nomme les dons. Les dons, c'est un charisme. Ah, il y a du charisme. Il y en a qui disent ça dans le monde, mais le charisme, ça veut dire c'est un don. Il est doué. Il a des capacités au-dessus de la moyenne. Mais quand on parle des dons spirituels, c'est des capacités spirituelles que tu ne vois pas dans tout l'ensemble. C'est des dons spéciaux, différents, que Dieu donne à chacun comme il le veut. Pour accomplir des ministères différents, il a dit, il y a une diversité de ministères. Ça veut dire, il n'y a pas juste le ministère d'apôtre ou de prophète, d'évangéliste, de pasteur, de docteur. Déjà, j'en nomme cinq. Mais il y en a une multitude de ministères. Des ministères, là, ça veut dire service. Tu es au service du Seigneur. Puis là, il te donne des charismes, des dons. Tu es doué. Tu as reçu un don pour accomplir des ministères. Mais il y en a une diversité de ministères. Parce qu'il y en a qui sont apôtres, prophètes, évangélistes. Déjà, tu en as cinq, là. Mais à part des autres qui sont nommés dans la parole. Le don de présider, puis, etc. Puis là, le troisième point qu'on mentionne pas souvent, puis que celui-là aussi, il est excitant, mais le même diversité d'opérations. Mais le même Dieu qui opère tout en tous. Le mot opération que là, c'est qu'il y a des énergies, des puissances différentes, des capacités. Mettons, t'as les deux, le don de guérison, mais il y en a un qui est une petite guérison. Il y a quelques guérisons comme ça, puis il y en a d'autres, c'est des multitudes de guérisons. Un autre, c'est, il prêche, c'est un bon prédicateur, mais l'autre, t'as encore plus d'onction, plus d'âmes qui sont viennent au Seigneur. En tout cas, c'est Dieu qui décide comment est-ce qu'il distribue, puis à quelle dose qu'il distribue. Dans l'étude qu'on fait à la maison, on parle du Saint-Esprit. Puis on a vu que Jésus, il a pas reçu l'Esprit avec mesure. Lui, c'était à pleine capacité. Il était pas limité. Il avait le Saint-Esprit était pleinement agissant dans sa pleine capacité. Puis c'est le Saint-Esprit qui a accompli les choses à travers Jésus-Christ. Comme il le voulait. Le Saint-Esprit, il a donné plein pouvoir. Puis quand il est ressuscité, il dit, tout pouvoir m'a été remis. Il n'y a pas eu de limite. Tandis que nous, en tant que croyants, il y a des différentes onctions, des différentes capacités, des opérations. C'est que il y en a qui vont dire, oh, ben moi, j'aime bien mieux quand c'est lui qui prêche au lieu de l'autre. Parce que, tu sais, puis là, on commence à comparer les ministères. On n'a pas vraiment à comparer les dons ou les ministères. Oh oui, lui, il prophétise bien mieux que l'autre. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Puis le Saint-Esprit distribue les dons comme il le veut, selon la dose de puissance ou d'onction qu'il le veut, pour des ministères que lui, Saint-Esprit, a décidé pour chaque personne. Fait qu'on n'a pas à faire de compétition avec les dons spirituels. On n'est pas, oh ben moi je suis bien meilleur que lui. Si on est comme ça, là, on est dans le champ, on est rendu orgueilleux. On n'a pas à se comparer avec l'autre. S'il y a une affaire, même si on se compare, ça serait pour voir qu'est-ce que l'autre a de mieux que moi, pour que moi, je devienne en prendre l'exemple chez les autres. Ça serait une bonne affaire, de prendre tous nos meilleurs points, puis on s'encourage à atteindre nos meilleurs points qu'on a les uns les autres. Mais pas se jalouser puis se compétitionner. C'est le Saint-Esprit qui opère tout. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il le veut. Maintenant, si je me dis, oh, c'est le Saint-Esprit qui décide qu'est-ce qu'il va faire à travers de moi, fait que moi, je le laisse faire, puis je ne l'achale pas avec ça, puis je n'en demande pas. Hein, c'est vrai, on pourrait dire ça. Oh, Dieu, il est maître de tout, puis c'est Dieu qui décide, j'ai pas besoin de... Non. Dieu nous exhorte, nous encourage. Il y a plein de versets qui en parlent. de rechercher, à aspirer, à désirer, à enlever des choses de notre vie pour en rajouter, se revêtir, s'équiper. Il y a toutes sortes de phrases pour dire aux croyants, reste pas comme que t'es, mettez tous vos efforts à joindre à votre foi, puis là, il donne des choses qu'on doit rajouter. Faut mettre tous nos efforts. On veut-tu voir vraiment la puissance de Dieu à l'œuvre? On va voir des actions que le Saint-Esprit peut faire. Quand on va voir ça dans l'Église, là, ça c'est une Église enflammée, que le Saint-Esprit a 100% pleine liberté d'agir, et tous les membres qui sont là sont connectés pour recevoir les paroles que le Saint-Esprit veut passer. Pour quelle raison, donc, je dois rechercher d'être rempli du Saint-Esprit? Puis rempli, pas juste du Saint-Esprit, rempli de sa puissance et de ses dons. Premièrement, parce que Dieu nous le demande de le faire. C'est la première raison pourquoi qu'on devrait rechercher d'être rempli, puis revêtu, puis équipé. Éphésiens 5, 18, ça nous le dit. Enivrez-vous pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. C'est quelque chose qu'on doit rechercher, frères et sœurs. Puis si je l'oublie dans la semaine, puis j'ai pas recherché, je viens de me faire voler ma promesse. Parce que le Seigneur, il veut tous nous remplir, puis nous revêtir, nous équiper. Si je le cherche pas dans la semaine, puis j'oublie de prier pour ça, puis je le demande pas, je pars pour faire ma journée sans la présence de Dieu. Je fais ma journée dans ma chair. C'est pas étonnant qu'on arrive le dimanche, puis on fait une petite prière de 5 minutes, puis on voudrait que la puissance soit à flot dans l'Église. Faut prendre bien plus au sérieux, promesse de Dieu, frères et sœurs. Les premiers disciples, 10 jours sans arrêt, à intercéder, tant qu'ils l'ont pas reçu, puis après ça, ils l'ont demandé encore, puis ils voulaient encore, c'est le verset que j'ai mentionné, ils voulaient encore être remplis, puis Paul, dans son enseignement, il dit, soyez remplis, c'est quelque chose qu'on doit rechercher, puis il nous donne le moyen de s'entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout notre cœur les louanges du Seigneur. Un autre verset dans 1 Corinthiens 14:1, ça nous dit, recherchez la charité, parce que la charité, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus important, mais aspirez aussi aux dons spirituels. Un aspirateur, ça se lasse pas d'aspirer. La minute que tu mets le bouton à on, ça, là, ça tire. Nous autres aussi, on devrait être comme ça. Vouloir la puissance de Dieu, vouloir être rempli du Saint-Esprit, vouloir que Dieu se manifeste avec puissance, que les dons se manifestent. Il faut les rechercher, frères et sœurs, puis c'est là que ça va se produire, quand on va l'aspirer, puis qu'on se laisse guider pour qu'il nous utilise, nous aussi, dans ça. Un autre avantage que ça nous donnerait si on serait rempli du Saint-Esprit et de sa puissance, on verrait des signes, des prodiges et des miracles qui confirmerait la parole qui est annoncée. C'est ce qui se produisait dans Marc au chapitre 16, le verset 20. Les premiers disciples s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Si on sera tous remplis du Saint-Esprit, il y aura des signes. À chaque réunion, il y aura des signes que Dieu est présent au milieu de nous. Soit des paroles qui nous encouragent, soit une révélation d'une chose cachée, soit une personne qui reçoit une guérison, soit une personne qui a eu un rêve que Dieu lui a parlé et qui a montré des choses pour sa vie, soit un autre qui est une délivrance de quelque chose qu'il y a dans sa vie. Il se passera des signes, des prodiges, des miracles dans toutes nos réunions. Puis même plus que ça, on sortirait dehors pour commencer à parler du Seigneur sur le coin de la rue, puis on prierait pour la personne, puis il y aura encore des signes. Dieu veut se révéler. Il veut pas rester caché à cette société-là. Puis c'est nous qui sommes ses représentants, frères et sœurs. Il faut rechercher ça pour que Dieu accompagne notre prédication avec les signes. Puis c'est pas juste l'affaire du prédicateur.
Non, c'est l'Église.
Toute l'Église est en contact, puis toute l'Église peut être utilisée pour l'édification. Un autre passage qui est super, qui nous parle que si on est rempli du Saint-Esprit puis revêtu de sa puissance, on va être efficace dans notre témoignage. Il dit, vous êtes la lumière du monde. T'allumes pas une lampe pour la mettre en dessous de la table. T'allumes une lampe pour la mettre sur la table et elle éclaire tout le monde. Nous sommes la lumière. Hein? Puis quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, là, ça nous donne une force pour pouvoir faire notre ministère. Puis le faire avec le feu de Dieu. Le désir. Pierre, c'est ce qu'il a fait quand il a prêché avec assurance à la Pentecôte. Mais pas juste à la Pentecôte. Il n'y a eu d'autres événements qui s'est produit que Pierre qui était rempli du Saint-Esprit. Mais allez-vous en lire un autre. Acte 4, 8. Puis s'il mentionne, là, que Pierre, il était rempli du Saint-Esprit, ça le mentionne, c'est parce que c'était visible. Quand t'es rempli, là, il y a une différence quand tu vois une personne qui est dans sa chair ou qu'une personne est remplie de l'Esprit. Il y a quelque chose qui se produit. L'apparence même de la personne a de l'air... Il y a de l'air joyeux, il y a de l'air en feu, il y a de l'air vivant, il y a de l'air heureux, il y a de l'air en paix, il y a de l'air en joie, il y a de l'air... Ça paraît, puis il parle avec une excitation, puis il a le goût, il parle du Seigneur tout le temps, il est excité. Quand tu es enflammé, là, ça paraît.
Tu peux plus l'arrêter.
Acte 4, 8, ça nous dit, Pierre, rempli du Saint-Esprit, il leur dit. Là, il parle à toute la gang. Il avait peur même d'une servante dans son état personnel. Lui, c'était un gars bien ordinaire, bien timide. Mais là, il est devant les chefs du peuple, les anciens d'Israël, là. Il était rempli du Saint-Esprit. Il dit, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade afin que nous disions comment est-ce qu'il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. Là, il voulait que tout le monde le sache. Il parlait avec un enthousiasme, un zèle, puis il était content. Il y a un signe qui venait de s'accomplir par la main de Dieu. Une personne a été guérie. Puis là, tout le monde se questionnait. C'est qui a guéri cette personne-là? Puis il dit, je m'en vous le dire, moi, qui c'est qui l'a guéri. Puis il était rempli du Saint-Esprit, puis il n'y avait rien pour l'arrêter. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, puis que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui vous bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel on pouvait être sauvé. Il n'y a que le nom de Jésus. Là, l'autre phrase est tout importante. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, lorsqu'ils virent l'assurance, c'est là que ça se voit, là. Ils parlent pas. C'est correct. Non, là, il parlait, il faisait pas juste lui dire, c'est Jésus qui a fait ça. Non. C'est Jésus, puis il n'y a pas d'autre chemin que Jésus, puis rien que Jésus, puis Jésus, c'est la pierre angulaire que vous rejetez. Puis là, il lui disait qu'eux autres n'étaient pas corrects. Il allait encore plus loin que juste dire « c'est Jésus ». Puis il n'y avait rien pour l'arrêter, puis il parlait avec assurance. Il était rempli du Saint-Esprit, que ça nous dit dans le verset. Puis là, les gens, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. Sachant que c'était des hommes du peuple, sans instruction, puis ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Quand que t'es rempli et revêtu de la puissance, ça paraît, puis quand tu l'es pas, ça paraît aussi. Moi, je le sais quand je suis rempli puis quand je suis pas rempli. Puis je suis sûr que vous voyez si je suis rempli ou si je suis pas rempli. Puis ça sera de même dans l'église aussi que le feu prend, tout le monde sera rempli, puis tout le monde pète le feu dans la louange, puis dans la joie du Seigneur. Puis quand tu l'on l'est pas, mais t'entends un criquet pendant les chants. C'est vrai, il y a des églises que t'entends un criquet, il n'y a aucune joie, aucune paix, aucune onction, il n'y a pas de personne d'enflammé, c'est comme si c'était un salon mortuaire.
Et encore, il y a salon mortuaire.
Une autre utilité qu'on aurait si on serait rempli du Saint-Esprit puis revêtu de sa puissance, on travaillerait pour l'édification du corps de Christ. Notre désir, notre but quand t'es enflammé, c'est que tu veux que tout le monde le save, puis tout le monde goûte, puis que tout le monde avance là-dedans. puis tous les dons que tu recherches, c'est dans le but de communiquer quelque chose afin que tout le monde vive ce que tu vis. Ça produit ça. Quand une église sont toutes indifférents les uns des autres, là, c'est parce qu'ils sont pas remplis. Le plan de Dieu, c'est que le peuple de Dieu veille les uns sur les autres. Puis Jésus dit, chaque fois que j'ai fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Quand tu es rempli de l'Esprit, ça t'amène à t'occuper de ton frère. Dans le chant qu'on a chanté tantôt, il dit, ne laisse pas ton ennemi ravir tes brebis. Mais c'est pas nos brebis personnelles, mais c'est les brebis du Seigneur. Puis on veille les uns sur les autres, on prie les uns pour les autres, on s'encourage les uns les autres, on s'accueille les uns les autres, on est heureux de se voisiner, de se voir, puis de sourire, puis ça se produit ça quand tu es rempli. Mais si on tomberait sans l'Esprit, ça devient chacun fait sa petite affaire, on est indifférent, puis ça ferait une différence. Puis là, dans la parole, ça nous dit, recherche être rempli, recherche la puissance, puis recherche, dans 1 Corinthiens 14, 12, de même que vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez en posséder abondamment. Ça veut dire que, moi, si je cherche à être rempli, là, je cherche les dons, puis il faut que ce soit mon but premier, que tout le monde dans l'Église peut s'en profiter. Pas pour m'élever, pas pour que me donner une position dans l'Église. Ah, j'ai le titre de prophète. Excusez-le. Non, c'est pas pour ça, c'est pas pour qu'on... On est tous égales, frères et sœurs. Il n'y a pas un meilleur que l'autre aux yeux de Dieu. Pas un. Puis Dieu veut se manifester à travers tous. Puis si on est tous remplis, puis on se met tous à rechercher quelque chose pour que tout le corps soit édifié, ça va être en feu ici, je vous le dis. Puis c'est pas moi qui vous le dis, c'est la parole qui nous dit. Si on se rend encore équipé, rempli du Saint-Esprit, puis équipé de tous ses dons, une autre belle affaire que ça ferait, ça l'aiderait à remplir de foi ceux qui doutent. On voit ça dans Luc 7, verset 20. C'est le passage où ce que Jean-Baptiste a eu des doutes. Il est en prison. Puis là, il dit... Là, Jean-Baptiste avait des doutes, puis il a envoyé du monde aller parler à Jésus pour le questionner. « T'es-tu celui qui doit venir ou on doit en attendre un autre? » Pourtant, celui qui avait envoyé Jean-Baptiste, il a dit « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre comme une colombe, c'est lui qui est baptisé du Saint-Esprit. » Puis là, Jean-Baptiste avait rendu témoignage que Jésus était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il savait. Sauf que ça arrive des fois qu'on doute. Ça, c'est le diable, parce que là, on considère notre état. Jean-Baptiste est en prison, là. Comment se fait, je te cite, moi? Là, il commence à être abattu, puis l'ennemi, il a mis des doutes, il se met des pensées pour le décourager. Mais il a bien fait quand même d'envoyer du monde pour questionner. Parce qu'après ça, Jésus s'est arrangé pour faire des signes, des prodiges, des miracles, puis aller dire ça, que les boiteux marchent, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Pour confirmer. Il nous dit, arrivé auprès de Jésus, il dit, Jean-Baptiste nous a envoyé vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes malades, d'infirmité, d'esprit malin, puis il a rendu la vue à plusieurs aveugles. Le doute était là, dans le cœur, il envoie quelqu'un, puis les quelqu'un arrivent à Jésus, puis tout de suite, Jésus s'est mis à faire un paquet de guérisons et un paquet de miracles. Puis là, il leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, puis la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Ce que je comprends là-dedans, moi, c'est que Dieu, le cœur de Dieu, le désir de Dieu, c'est qu'on doute pas. Parce que quand tu doutes, ça te prive de recevoir. Tu ne peux pas présenter des prières avec foi quand tu doutes. Mais si tu confesses ton doute puis tu demandes de l'aide au Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur peut faire? Il peut faire qu'il y ait des signes dans ta vie, des prodiges, des miracles. Puis ça serait normal qu'on en voit, qu'on entende des témoignages. Dieu a répondu à ma prière. Dieu m'a rebaptisé du Saint-Esprit. Dieu m'a guéri. Qu'on entende des témoignages dans l'Église qui se passe ci, qui se passe ça. Qu'est-ce que ça fait dans le cœur de ceux qui doutent? Dieu y est là, puis Dieu y agit dans cette Église-là. Puis là, ça augmente leur foi, ça dissipe leur doute. Après ça, eux aussi peuvent s'accrocher aux promesses. Si on chercherait à être rempli du Saint-Esprit et de sa puissance, on verrait plein de signes qui béniraient ceux qui ont de la difficulté dans leur vie. On pourrait même prier pour ces gens-là, puis voir Dieu répondre leurs prières, puis que les gens sont tous excités après de servir le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre. Amen. Quand on manifeste les dons, une autre belle affaire. Quand tu vis dans les dons puis que tu les manifestes, tu es rempli de l'Esprit. Il faut que tu sois déjà rempli pour les vivre. Mais quand tu vis tes dons spirituels, ça continue aussi à t'édifier toi-même. Il y en a qui trouvent ça bizarre, mais c'est biblique. La Bible, elle dit, elle mentionne. Ça, si on voit ça dans 1 Corinthiens 14, 4. C'est Paul qui parle. Il dit, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » Ça veut dire que tu as une édification. Ça te bénit. Ça te fait du bien. N'as-tu qui l'ont déjà eu, le baptême du Saint-Esprit? Pas le baptême, mais les dons de parler en langue. Oui. Puis quand vous avez prié en langue, est-ce que ça vous édifie? Est-ce que vous restez pareil quand vous priez en langue? Tu restes pas pareil. Tu te sens dans la paix, tu te sens dans la joie, tu te sens heureux. Il y a de quoi qui se passe, ça t'encourage. Ça transporte, ça t'élève, ça te fait du bien. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te prie en langue à travers toi. Mais il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Puis, un autre verset dans Jude qui dit, vous édifiant vous-même en priant par le Saint-Esprit. C'est un autre verset qui veut dire la même affaire que ça. Tu reçois ça te bénit de manifester ce don-là. C'est comme une intercession puis de la louange envers Dieu dans le but de t'édifier et de fortifier. Mais si on aspire aux dons, puis on aspire à être rempli, mais plus que tu vas vivre des dons spirituels dans ta vie, plus c'est encourageant pour en rechercher d'autres. Mais si on le recherche juste le dimanche, on oublie, frères et sœurs, on oublie. Si on rechercherait d'être rempli du Saint-Esprit puis revêtu de sa puissance, ça ferait comme créer un contexte pour opérer des délivrances. Quand une église est en feu, que la puissance du Saint-Esprit est là, il y a des délivrances qui s'opèrent dans la présence du Saint-Esprit. Ça, on voit ça là dans un passage dans Marc 1, 22. Quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, la réaction autour, c'est de faire réagir les esprits démoniaques, comme Jésus quand il était dans la synagogue. Là, ça dit dans Marc 1, 22, ça dit, « Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. » Puis il se trouvait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? T'es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Ce que je vois là-dedans, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, il rentre dans la synagogue, commence à prêcher la parole. Claire, une personne qui était dans l'assistance ne pouvait pas. L'esprit qui était dans cette personne-là ne pouvait pas demeurer dans le silence pour rester caché. Ça faisait peut-être depuis 20 ans que cette personne-là était assis là dans l'église, pas dans l'église, mais dans la synagogue. Ça fait 20 ans que le mauvais esprit est en cette personne-là. Cette personne-là ne pouvait pas recevoir délivrance. Personne ne devait savoir qu'il y en avait un esprit de caché dans ce personnage-là. Qu'est-ce qui a fait que ça se manifeste? C'est quand que Jésus, rempli et revêtu de la puissance de l'Esprit, commence à prêcher avec autorité. La puissance de Dieu remplit le lieu, puis là, clore les manifestations, puis les délivrances s'opèrent. Jésus a dit, sors de cet homme, puis l'Esprit est sorti, puis il ne pouvait pas rester là. La puissance de Dieu fait décoller l'ennemi.
Amen.
Croyez-vous à cela?
Amen.
Même dans la louange, souvent, on reçoit des délivrances sans s'en rendre compte, parce que ce n'est pas toujours comme des esprits qui parle à travers la bouche de quelqu'un. Des fois, c'est un esprit qui vient puis fait juste t'oppresser, tu te sens troublé, tu te sens achalé, puis tu ne sais même pas c'est à cause de quoi. Tu arrives, tu te rentres dans la louange, puis là, fou, ça s'en va. Tu te sens bien, mais tu ne sais pas ce qui s'est passé, tu ne sais pas ce que c'était avant, mais tu sais que tu te sens bien après. Mais Dieu a fait des choses quand on était rempli du Saint-Esprit puis qu'on était dans louange. Dieu libère quand on est dans louange. Sa puissance nous rend libres, ça brise des chaînes, ça rompt des liens. On est libéré.
Amen.
Puis après ça, on peut ressortir avec joie, la joie du Seigneur. Une autre chose que ça ferait si on serait rempli puis revêtu de sa puissance. Ça créerait un contexte favorable en cours, mais pour recevoir, pour obtenir des guérisons. Ça, on voit ça dans Jacques 5, verset 14. Ça arrive-tu que des chrétiens sont malades? Oui, ça arrive que des chrétiens sont malades. Est-ce que Dieu veut guérir? Oui, Dieu veut guérir. Est-ce que Dieu peut guérir?
Oui.
Oui. Est-ce que Dieu a parlé du don des guérisons?
Oui.
Oui. C'est un don spirituel qui est dans la parole de Dieu. Si on serait rempli puis revêtu de la puissance de l'Esprit, ça créerait un contexte pour guérir beaucoup de personnes. Parce que la puissance de Dieu sera à l'œuvre pour guérir. Dans Jacques 5, 14, ça dit, « Quelqu'un parmi vous est-il malade? » Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur, la prière de la foi sauvera le malade et le relèvera. Le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns les autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. C'est quoi le but de tout cela, là, de cet exercice-là, de tous ces versets-là? C'est afin qu'on soit guéri. C'est ça que ça dit dans le verset, là. Fait que le but de manifester la foi dans les miracles, la foi dans les guérisons, le but de ça, là, de manifester la foi dans les guérisons, c'est dans le but que vous soyez guéri. Dieu veut nous guérir. Dieu veut guérir son peuple. Dieu veut pas que les gens restent malades. Je dis pas que ça arrive pas des exceptions. Que Dieu a un plan dans la maladie, puis il veut que t'amener à l'hôpital pour témoigner quelqu'un à côté de toi, puis c'est correct, Dieu a des plans. Mais Dieu veut aussi guérir les malades. Puis si on se dit, on laisse aller les malades, puis on dit, c'est pas la volonté de Dieu qu'on soit guéri, on n'en verra jamais de guérison. Mais si t'aspires à être rempli puis revêtu de la puissance de l'Esprit, puis tu crois que c'est écrit que le don des guérisons existe, puis tu sais qu'une personne est malade, ça dit, va voir les anciens, ils vont prier pour toi avec l'onction d'huile. La prière de la foi sauvera le malade. Le don de guérison va se manifester, la personne va être guérie. Puis si cette maladie-là est due à un péché, il va confesser son état, il va confesser son péché, puis là, le Seigneur va y pardonner, puis il va le délivrer de cela.
Amen.
Délivrer pas juste de sa maladie. Délivrer aussi de la conséquence de ce péché-là, qui est n'importe quoi, là, un lien. Dieu, il n'y a rien qui est impossible que Dieu ne puisse pas faire. N'importe quel péché qu'on sait qu'on a, on peut demander de l'aide pour prier, puis le Seigneur va nous guérir physiquement, puis il va nous pardonner, puis il va nous libérer de ce péché-là. Il veut pas qu'on reste dans cette situation-là. Il veut qu'on aille chercher sa présence, sa puissance, puis voir sa main à l'œuvre, puis qu'on les chaînes tombent, les péchés s'en vont, puis on est de plus en plus libre. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, Vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, puis la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. La vérité, c'est Jésus-Christ la vérité, sa parole est la vérité, il y a l'esprit de vérité. Tout est là dans l'Église. Puis avec la vérité, il va nous rendre libres. Amen. Alléluia. On veut cela, Seigneur. On veut voir des guérisons, des délivrances. On veut être rempli du Saint-Esprit, puis voir tous les dons spirituels à l'œuvre. Alléluia. Une autre chose qu'on arrête de bénissant dans l'Église, on sera rempli, revêtu de la puissance de l'Esprit. On entendra des paroles prophétiques, des paroles de connaissance, puis ça révélera des cœurs, puis ça l'encouragera des cœurs aussi. Dans 1 Corinthiens 14, 24, qu'on voit cela. Ça nous dit, « Mais si tous prophétisent, et qu'il survient quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte, tombant sur sa face, il adorera Dieu, puis publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. »
Amen.
Ça, c'est la puissance de Dieu. Il révèle les cœurs. Les gens sont touchés. Hey, ce prédicateur-là, il parle directement dans ce que je pense. Puis, il révèle mon cœur. Puis là, il entend, il dit, si tous prophétisent, il n'a pas dit juste le prédicateur, là. Si tous prophétisent, les pensées du cœur de ceux qui viennent nous visiter vont être révélées par tous. Jugées par tous, convaincus. La manifestation de la puissance va être à travers chaque croyant qui est là, qui marche par le Saint-Esprit puis qui aspire au don de prophétie. Puis ça va amener les gens à croire que Dieu est réellement là dans votre Église. On le sait que à ceci, ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez. Il y a aussi avec les fruits. Ah, lui, c'est une bonne personne, ça, c'est pas un, il vole pas, il ne compte pas de jokes sales, il sac pas, il remarque nos fruits. Mais il n'y a pas juste ça qui peut démontrer qu'on est de ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. S'ils voient les dons spirituels, la prophétie, ils vont publier que Dieu est réellement parmi vous. Ça va les amener à tomber sur leur face, puis ils vont confesser eux-mêmes que Dieu est là présent. On veut-tu voir Dieu présent? C'est ça, là, ce que je vous dis là, c'est pas que je vous lis pas des textes comme si ça sera juste un conte ou des beaux récits. Ça s'est vécu. Il y a plein d'églises présentement qui vivent cela, les dons spirituels. Il y a des gens qui n'ont pas juste le don de prophétiser. Ils sont devenus des prophètes. C'est leur ministère. Ils prophétisent. Je le sais qu'il y en a des faux prophètes. Je le sais qu'il y en a qui prophétisent que ce qui leur passe par la tête, puis c'est pas le Saint-Esprit qui parle. Ça arrive, ça. Mais je ne peux pas m'empêcher d'aspirer aux dons spirituels parce qu'il y en a qui sont pas corrects. Non, la Bible me dit aspirer aux dons les meilleurs, surtout à celui de prophétie.
Amen.
Parce que des paroles prophétiques, c'est pour nous encourager. Ça encourage tout le monde. Ça ne fait pas qu'encourager le non-croyant qui va venir. Parce que dans l'autre verset, tantôt, j'ai dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Puis dans le même verset, c'est celui qui prophétise, édifie l'Église. Fait que quand quelqu'un aspire au don de prophétie puis que ça se manifeste, toute l'Église en reçoit une édification, pas juste les non-croyants. Fait qu'il dit, des paroles prophétiques sont là pour nous encourager, nous fortifier, nous donner une vision, nous édifier, nous exhorter, nous consoler, à part aussi les paroles de connaissance. Parce qu'il y a des paroles de connaissance qui révèlent les choses cachées. On ne sait pas pourquoi telle affaire est là. Puis là, le Seigneur donne une parole à quelqu'un, c'est à cause de tout ça que telle affaire se passe. Ça, c'est une révélation. Jésus, connaissant leurs pensées, il donna la réponse à la personne avant qu'il pose la question. Ça, c'est une parole de connaissance. Ça fait partie des dons d'inspiration qui sont comme le don de prophétie. Dieu révèle. Une parole de sagesse, c'est que c'est semblable, mais au lieu d'être une parole qui révèle un cœur, c'est une parole qui révèle la meilleure chose à faire dans cette situation-là. Puis sans savoir pourquoi qu'on fera ça, faut que je fasse ça, j'ai une conviction, c'est que c'est le Seigneur qui me pousse à ça, puis tu fais que c'est à faire, puis là, le Saint-Esprit, il t'a comme donné une révélation, sans que tu saves toi-même, par toi-même, ce que tu auras dû faire, puis il va te donner les paroles pour ce qui est le plus sage dans les situations. Faut s'attendre à ce que Dieu nous dirige, puis qu'il dirige l'Église dans ses décisions aussi, puis on a besoin de cela. Fait que les paroles de connaissance, les paroles de sagesse, c'est dans le but d'avoir des révélations sur nos vies, pour révéler des liens aussi, pour révéler des péchés, des maladies, ou des directions dans les décisions à prendre. On a besoin de l'inspiration du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se produisait dans l'Ancien Testament quand, mettons, il y avait un problème entre deux personnes? Il y allait voir le sacrificateur. Là, le sacrificateur prenait l'urin puis le thumain. L'urim et le thumim, c'était comme une affaire qui... Ben moi, je comprends pas à 100% comment ça marchait, là. Mais il faisait quelque chose, c'est comme pas tiré au sort, mais il faisait quelque chose avec ça, puis ça donnait la réponse. Il posait la question, puis le Dieu donnait sa réponse. C'est quasiment comme tiré au sort. Mais c'était qu'est-ce que Dieu avait dit de faire dans cela, dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, il faut prier que Dieu nous donne la révélation. Quand il nous donne un hymne, il donne aussi la conviction que c'est ça l'affaire à faire. Puis on le fait, puis on a des directions de Dieu, puis ça nous aide. Puis les paroles de connaissance, comme je vous ai dit, ça révèle les cœurs. Des fois, comme la personne est malade, elle va voir les anciens. Dieu veut guérir, mais il va donner une parole de connaissance aussi pour dire c'est à cause de tel péché que t'as. Si t'as-tu ça, elle va dire oui. Là, ils vont confesser ça. C'est important que pour des délivrances et des guérisons, que tous les dons soient en action. Oui. Une autre belle affaire qu'on voit dans la parole de Dieu, que ça serait une bénédiction aussi, qu'on serait rempli du Saint-Esprit puis revêtu de sa puissance. Ça nous donnerait le discernement pour sonder puis reconnaître les esprits méchants. On voit ça dans Actes 16, le verset 17. Le discernement des esprits, c'est un don aussi du Saint-Esprit. Paul est en train d'évangéliser, il rentre dans une ville, puis il y a une femme qui passe son temps à crier en arrière de Paul. Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, puis ils vous annoncent la voie du salut. Affiche-la pendant plusieurs jours. Des fois, tu te sentirais, hey, je suis béni, Dieu me rouvre des portes, les gens me reconnaissent, puis ils me vantent devant tout le monde. Tu sais, c'est ça là ce qui se passait. Mais là, lui, il fallait qu'il y ait une révélation pour savoir c'est quoi qui se passe là. C'est qui cet esprit-là qui est en train de parler? C'était pas Dieu qui lui donnait ça, là. C'est l'esprit, un esprit mauvais, un esprit de python, qui était dans personne, puis elle faisait de la divination. Elle devinait les choses, puis là, elle savait que ces gars-là étaient des serviteurs de Dieu, puis si elle continuait à proclamer ça, les gens auraient cru en son don à elle, et non dans ce que Paul est en train de dire, puis aurait continué à être mêlé en suivant cette femme-là dans ses dons qui vient d'un mauvais esprit. Fallait que ça soit révélé, puis au bout de 3 jours, Paul, il était fatigué, il s'est retourné, puis il a dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle », puis il sortit à l'heure même. Le discernement des esprits. Moi, je le sais, souvent, il y a des esprits qui parlent à travers la bouche de ceux qui nous entourent, puis on s'en rend pas compte. Parce que je l'ai détecté souvent. Pas à toutes les fois, mais je l'ai détecté souvent. J'ai entendu du monde parler, puis je savais que c'était un autre esprit qui était là. Mais si on n'a pas ce don-là, on se fait embarquer dans toutes sortes de pensées suggérées par ces esprits-là. Puis ça nous mêle quand on s'en rend pas compte. Ça nous met même des ouvertures à des péchés dans notre vie. On accepte ce mensonge-là, ça crée un doute ou ça crée une ouverture à un péché. Mettons un exemple. « Hey, t'y regardes-tu, femme, toi? » Ça a l'air quasiment avec une joke, ça, là, quand tu penses à ça. Mais quand un esprit mauvais te dit ça, puis dans ta tête, tu dis, ben oui, j'y regarde. Mais tu pensais pas sur le mauvais bord, mais ça trouve des portes dans tes pensées. Puis après ça, tu te mets à penser à ça. Puis cet esprit-là, t'en rajoute des idées dans cette pensée-là. Puis là, tu te mets à regarder les femmes. Puis là, il y a un problème qui se crée, que t'es rendu, que tu convoites de tes yeux tout le temps. Mais il faut réaliser que il y a peut-être un esprit qui nous a shooté une pensée. Puis faut que tu chasses ça quand ça vient dans tes pensées. Faut que tu chasses ça. Faut que tu te dises non. Puis faut que tu te battes. Faut pas laisser penser dans notre esprit tout ce qui nous vient dans la tête. C'est pas le Saint-Esprit qui nous met toutes les mauvaises pensées. C'est notre pensée capable d'en penser. Puis il y a les injections des mauvais esprits. Faut discerner quand il y en a un. Quand Jésus il a entendu, Jésus venait de lui dire, il faut que le Fils de l'homme soit livré. Il fallait que ça soit accompli, cette parole-là. Il faut que le Fils de l'homme soit livré. Mon Pierre dit, jamais, Seigneur, ça va t'arriver. Lui, il voulait bien faire, mais il ne s'est pas rendu compte que c'était Satan qui a parlé par sa bouche. Jésus l'a discerné, puis il a dit, arrière de moi, Satan. Il ne pouvait pas laisser entrer ce pensée-là, Jésus, jamais ça va m'arriver. Parce que Pierre va me défendre. Enfin, il pouvait pas rester rentré ce pensée-là. Mais c'est le diable qui venait de parler à travers de Pierre pour semer un doute, un combat dans la pensée à Jésus. Jésus l'a détecté tout de suite par le discernement des esprits. Il a chassé cette pensée-là. Quand c'est une pensée qui venait du Saint-Esprit, t'es heureux, Pierre, c'est Dieu qui t'a révélé cela. Mais quand c'est le diable qui a parlé, arrière de moi, Satan. Fait qu'il est important, ce don-là, pour combattre, pour garder nos barrières, pour pas qu'on tombe, puis qu'on se mêle, puis qu'on vienne avec des doutes semés par l'ennemi. Une autre belle affaire qu'on aurait si on serait rempli du Saint-Esprit, puis revêtu, puis équipé de ses dons, c'est qu'on serait en prière par le Saint-Esprit, puis en louange par le Saint-Esprit qui est en langue. Parce que c'est ça que ça nous dit. Ça nous servirait à s'édifier soi-même, puis on pourrait prier en faveur des saints sans qu'on s'en rende compte. Parce que dans 1 Corinthiens 14, 15, ça dit, « Je prierai par l'esprit, je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, puis je chanterai aussi avec l'intelligence. » Fait que quand tu parles par le Saint-Esprit, tu peux parler en langue, tu pries ou tu loues. Puis tu peux le faire avec ton intelligence. Tu prends ton livre, puis tu chantes, tu loues. Ça, c'est l'intelligence. Puis par l'esprit, c'est lui qui te dirige. Mais le don des langues, c'est à ça que ça sert. Il dit, de même qu'on ne sait pas quoi demander, l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Puis c'est selon Dieu qui intercède en faveur des saints. Ça veut dire que c'est des prières qui vont être exaucées, parce qu'il est en train de prier selon Dieu. Puis une prière que Dieu agrée, c'est une prière qui est exaucée. Y a-t-il un amen à cela? Puis pour finir, toutes les choses qu'on recevra d'être rempli du Saint-Esprit puis revêtu de sa puissance, c'est la satisfaction intérieure de l'être. La touche, la bénédiction, comment tu te sens bien quand tu es rempli de l'Esprit puis tu es revêtu? Ça nous parle dans Actes 3, 19, des temps de rafraîchissement qui viennent de la part du Seigneur. Ça vient quoi, ça? C'est le Saint-Esprit qui nous rafraîchit notre âme, qui nous restaure, qui nous fait du bien. On a besoin de cela, ça c'était dans Actes 3, 19. On a besoin aussi, que ça nous parle dans la Bible, Hébreux 1, 9, de l'huile de joie que Dieu veut déverser à ceux qui lui appartiennent. Puis Jésus lui a reçu une huile de joie au-dessus de ses égaux. Mais ses égaux la reçoivent, lui, de joie. C'est une huile de joie. Remplit notre cœur de la joie du Saint-Esprit. Ça nous fait du bien. On sort d'ici de joyeux. Une autre place, ça nous parle en Philippiens 4:7, la paix de Dieu. C'est encore quand tu es rempli du Saint-Esprit, ça garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Ça nous donne une satisfaction intérieure de paix, de joie, de rafraîchissement. Puis il y en a d'autres passages que ça nous pourrait donner comme avantage d'être rempli puis revêtu de la puissance de l'Esprit. Frères et sœurs, on a tout à gagner. de rechercher les dons. Puis, laissons-nous pas voler ces promesses-là. C'est Dieu qui veut nous donner tout cela. Puis, c'est pas oui et non sa promesse, c'est oui et amen. Il veut nous le donner. On le veut-tu? On va se lever debout, puis on va prier à Dieu, puis on va le demander, puis on va continuer, quand on s'en allait chez nous, on continuera à le demander, puis c'est sans arrêt, ça, jusqu'à la fin de votre vie, demandez-le, puis Dieu donne tout simplement. Père, Seigneur, c'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qu'on est rassemblés. Je te remercie, Seigneur, pour ta parole qui est vraie, puis tout ce qui est promis, là, tous les versets qui sont là, qui nous confirme que tu veux nous remplir de ton Saint-Esprit, tu veux nous revêtir, tu veux nous équiper, tu veux nous fortifier, tu veux manifester ta présence et ta puissance dans nos vies par des dons spirituels. Tout ce qui est là, Seigneur, on le veut. On réclame ces choses, puis on te les demande dans le nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Puis je te remercie de la présence de ton Saint-Esprit qui est là ce matin. Merci de ta paix, de ta joie, du rafraîchissement qu'il fait dans notre âme. Mais on en veut plus. Plus encore. Jésus, il avait le maximum, l'huile de joie au max. Mais nous, on en veut plus, puis plus, puis plus. Fait qu'on remet nos ventres entre tes mains, conduis-nous à ce qu'on n'oublie pas tes promesses, qu'on se les laisse pas voler, puis qu'on te les réclame sans arrêt, pour être continuellement rempli de ton Saint-Esprit. Garde-nous dans la louange, garde-nous à ce qu'on puisse te louer, chanter des cantiques, célébrer ton nom, se réjouir dans ta présence. Garde-nous en prière, dans un esprit de prier sans cesse. Garde-nous dans la méditation de ta parole, à rester à réfléchir sur ta parole sans arrêt. Seigneur, on veut pas perdre ce que tu nous confies.
Amen.
On veut tout ce que tu as là, Seigneur. Je te prie dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.